littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future.
Le podcast des Utopiales. Le fléau. François Bontemps, Nicolas Martin, Christian Lehmann, modération Jérôme Vincent.
Bonjour à tous et à toutes, merci de nous avoir rejoints en ce samedi midi. Vous avez sacrifié votre repas pour entendre parler de virus, de catastrophes et de choses qui font mourir. Merci, ça nous fait plaisir. Sinon, vous pouvez aussi mourir en mangeant, donc finalement, l'un dans l'autre, ça le fait plutôt pas mal. On a une table ronde autour du fléau. Le fléau, c'est évidemment un sujet très récurrent de la science-fiction, mais on va s'intéresser à notre fléau à nous, notre fléau personnel, notre vrai fléau, qui est donc la Covid, qui est apparue il y a un peu plus de 18 mois maintenant. Et dans le descriptif, je vais pas tout vous lire, mais ce qui est très intéressant, c'est la dernière phrase: qu'avons-nous appris de cette pandémie? Et je voudrais qu'on travaille un petit peu notre table ronde autour de cette thématique. Parce qu'il se trouve que j'ai trois invités sur cette table ronde qui ont pas mal de choses à dire et des choses vraiment passionnantes. Alors juste à mes côtés, Christian Lehmann. Christian Lehmann a publié une vingtaine de romans et essais, dont la trilogie No Passaran, le jeu, à l'école des loisirs, il y a quelques années. Peut-être que vous vous en souvenez, sinon il faut vraiment pouvoir y retourner. Mais surtout, vous êtes médecin et vous tenez depuis 2020 une chronique dans Libération sur cette pandémie de Covid-19. Avec certains éléments. À ses côtés, François Bontemps, qui est directeur de recherche du CNRS, qui partage son temps entre l'Institut Pasteur et l'Institut de chimie des substances naturelles à Gypes-sur-Yvette. Vous vous occupez de virologie structurale, mais aussi vous travaillez une partie de votre temps sur la réflexion entre les relations entre science et société pour l'Institut Pasteur. Et puis mon camarade Nicolas Martin, que vous avez pu voir hier animer brillamment l'émission La méthode scientifique.
Avec un certain Jérôme Vincent.
Avec un certain Jérôme Vincent, évidemment, tout cela.
Aucune consanguinité dans tout
ça. Non, du tout, pas du tout de copinage. Mais au-delà de ça, donc journaliste scientifique, producteur d'émissions, mais qui a été beaucoup sollicité par les médias, notamment de la radio publique, pendant la pandémie, pour expliquer, notamment sur France Info, qu'est-ce qui était en train de se passer à l'instant T des connaissances. Donc, notre table ronde, si on parle de science-fiction, on va vraiment parler de réel, et je voudrais faire des allers-retours entre science, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris au niveau société? Comment est-ce qu'on s'est organisé? Et comment eux qui sont baignés un petit peu là-dedans et qui ont sans doute plus de connaissances que nous, ils ont vécu véritablement ce moment. Voilà, présentation un petit peu longue, mais je vais leur passer très vite la parole. Peut-être pour commencer, je vais leur demander quelle a été leur réaction à l'arrivée de cette pandémie. On a commencé à en entendre parler à partir de janvier, février, c'est monté très fort. Au mois de mars, puis au mois de mars 2020, vous vous souvenez, à un moment, on a tous été confinés de manière très vite. Comment est-ce que eux, ils l'ont vécu en professionnel des sciences? Peut-être François Bontemps, pour commencer. Votre réaction à vous quand c'est arrivé?
Alors, je vais avoir du mal à répondre parce que je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai pensé quand c'est arrivé. Je pourrais vous parler plutôt d'un certain nombre d'écrits, à commencer par deux grands témoins de cette histoire qui sont Philippe Sansonetti, médecin et chercheur à l'Institut Pasteur, et de Renaud Pierroux, qui est un médecin épidémiologiste qui s'est beaucoup occupé de choléra et qui ont tous les deux écrit dans deux livres, l'un s'appelle La vague et l'autre Chronique d'une tempête parfaite, les premières semaines autour de cette épidémie. Et ce que tous les deux disent, d'une certaine façon, c'est ce sentiment étrange de décalage entre ce que eux, en tant que professionnels de santé, voyaient monter et le côté absence de réaction dans la société. Mmh. En fait, Renaud Pierroux, vous m'interrompez si je suis trop long. Okay. Renaud Pierroux décrit une scène très particulière qui a eu lieu. Il rentrait d'Afrique où il s'était occupé de choléra. Il a rencontré un collègue de l'APHP. Il a commencé à discuter avec lui. Et il lui a dit, tu sais, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant quand tu vois ce qui est en train de se passer en Chine, quand tu vois ce qui n'est pas en train de se passer en Italie, quand tu vois ce qui est en train de se passer autour de nous. On a l'impression que pour nos autorités de santé, pour l'instant, c'est quelque chose qui va rester sous contrôle. Et à la suite de quoi, ils sont allés voir Martin Hirsch. Martin Hirsch a été convaincu par leurs arguments. Ils ont fait venir des gens du gouvernement. Ils ont fait venir quelqu'un qui s'appelle Simon Cauchemet, qui travaille à l'Institut Pasteur, qui est le modélisateur de l'Institut Pasteur. Et ces gens-là, au cours d'une réunion, ont fait basculer la doctrine complètement d'une idée d'une épidémie qui devait rester sous contrôle, il n'y avait que quelques cas, à quelque chose qui, parce que c'est une exponentielle, allait exploser. Donc, effectivement, ce qui est assez intéressant pour nous, c'est de se dire que... Mais je suis pas en train de jeter la pierre au sens où vouloir être prêt à tout, vouloir tout imaginer, etc. C'est plutôt qu'il va y avoir, il y a des événements qui peuvent nous prendre totalement par surprise. Et même si on a des signaux, le système mécanique de nos pensées, et en particulier celui de l'État, dans ses préoccupations immédiates, dans sa nécessité de gérer tout un tas de choses, etc., dans ce qu'il sait faire bien, et ce qu'il n'est pas forcément capable d'appréhender tout de suite, fait qu'on s'est retrouvé dans une situation de décalage qui a été importante. Il faut voir que 3 jours de confinement plus tôt, ça aurait été à peu près... Enfin, allez, une semaine de confinement plus tôt, c'était moitié de morts en moins. C'est ça le principe d'une exponentielle. C'est que comme ça double, tous les 3-4 jours, si vous diminuez 2 au départ, à la fin, vous avez 2 fois moins.
Est-ce que je peux vous interrompre parce que on se souvient que la grippe aviaire, on se souvient du SRAS quelques années avant. Qu'est-ce qu'elle avait de différente cette épidémie sur le début, François et Nicolas?
Alors en fait, elle avait de différente que sur les 3 conditions qu'il faut pour faire une épidémie vraiment extrêmement dangereuse, elle en réussit 2. La première, c'est un mode de diffusion très actif et la voie aérosol est une voie de diffusion extrêmement active. La deuxième, c'est une maladie qui touche avant... Enfin, l'un des problèmes du SARS-CoV-2, qu'il n'y avait ni dans le MERS ni dans le SARS-CoV, c'est qu'on avait une période de 4 ou 5 jours où on était susceptible de la diffuser sans manifester de symptômes. Et ça, c'est extrêmement important. Le MERS et le SARS-CoV ont été bloqués tout de suite parce que les gens ne devenaient infectieux qu'après de tomber malade. Ce qui veut dire que les seuls qui étaient au contact en fait, des gens susceptibles de les contaminer, c'était le personnel médical. Et la troisième, c'est une très forte mortalité. Dans le cas du SARS-CoV-2, la mortalité n'a pas été très forte. Elle a été forte, je veux dire, sans les mesures... Enfin, elle a fait quand même 4,5 millions de morts, et sans les mesures qu'on a prises, il y en aurait eu 10 fois plus. Mais elle n'était pas parmi les maladies. Le MERS tuait beaucoup plus.
Nicolas ?
Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, moi je me souviens pour le coup assez précisément de la façon dont on a vu arriver cette épidémie dans l'émission. Je me souviens notamment du premier journal des sciences de Natacha Triou, qui évoque en janvier une pneumonie atypique en Chine. Et on voit cette chose arriver, on voit le truc gagner un peu en ampleur, et puis ça commence à arriver en Italie. Mais bah, même avant ça, c'est intéressant, parce que c'est dire à quel point vraiment l'ensemble de la communauté scientifique a été totalement prise de court et par surprise sur cette épidémie, parce que je me souviens d'avoir fait pour France Info un épisode des Idées Claires avec Anne-Claude Crémieux, qui est une infectiologue de renom tout à fait compétente et absolument brillante. Et à ce moment-là, la question, c'est de dire, est-ce que cette épidémie peut devenir dangereuse? Et Anne-Claude Crémieux nous dit, il y a peu de chances qu'elle sorte de Chine. Et pour rebondir sur ce que disait François à l'instant, je me souviens très très précisément du moment où on voit tomber la première étude qui dit qu'il y a une contamination présymptomatique. Et on est début mars, il commence à y avoir des cas en Italie, et à ce moment-là, vraiment, il y a quelque chose... Je m'en souviens vraiment parce qu'il y a eu quelque chose dans le bureau de la méthode scientifique où on s'est dit, ah oui, donc, si il y a une contamination présymptomatique 48 heures avant les symptômes, c'est foutu. C'est vraiment, il y a eu ce moment de réalisation en disant, c'est foutu, on ne peut rien faire, on est battu, et donc on va se prendre un mur en pleine tête, parce qu'on ne peut rien faire, contrairement au SARS, contrairement au SARS-CoV-1 et au MERS-CoV.
Juste cette réunion-là dans le bureau, elle est à quel moment à peu près?
Début mars. Je ne sais plus, je parle sous votre contrôle à vous deux, mais
le 20 mars.
Le 16.
Le 16.
C'est début mars, et la première étude qui atteste d'une combinaison présymptomatique, je crois qu'elle date de fin février, elle est publiée dans Nature ou dans le...
Juste une précision, la réunion dont je vous parle dans le bureau de Martin Hirsch, ça va être le 12 ou le 13 mars. C'est-à-dire que...
D'accord, en temporalité,
ça signifie que derrière, ça s'est déclenché très vite.
Christian Lehmann.
Moi, je suis pour la première fois dans une convention de science-fiction depuis les années 80. Parce que quand j'étais adolescent, j'allais aux conventions de science-fiction en Angleterre, à Brighton, je rencontrais Theodore Sturgeon, Brian Aldiss, Rob Allstock, Christopher Priest, et je bouffais de la science-fiction apocalyptique, donc des fléaux, des pandémies, j'en ai vu plein. Et si j'ai choisi à l'époque de faire médecine plutôt qu'être écrivain, c'est parce que, d'une manière qui peut sembler fantasmatique, je pensais qu'un jour on y aurait droit. Je suis devenu généraliste dans une ville de la région parisienne, j'ai travaillé pendant des années, et ce truc est devenu un peu, dans ma tête, un truc de geek en disant ben, c'était un joli rêve quand tu étais gosse, mais tu vas continuer à soigner des hypertensions et des infarctus. J'ai quand même fait un blog dans les années 2007 qui s'appelait « En attendant H5N1 ». J'ai suivi la pandémie H1N1 quasiment en temps réel, entre son départ en mars-avril, où on était très inquiets de ce qui se passait en Amérique latine et en Amérique centrale, où on nous disait que des patients jeunes, sans pathologie respiratoire, sans comorbidité, se retrouvaient avec des atteintes pulmonaires gravissimes, voire létales. J'ai vu le basculement quand, à la fin du mois d'août, les Anglais qui essayaient un candidat vaccin se sont rendus compte que les volontaires qui venaient les voir, qui étaient en bonne santé, avaient quasiment tous des anticorps, c'est-à-dire qu'ils avaient rencontré le virus et que c'était passé comme une lettre à la poste. Donc j'ai vu cette fausse épidémie. Et là, j'étais proche de mon départ en retraite. Je me disais, ça va, c'est un peu comme le type dans le désert des Tartares qui a attendu les Tartares et puis il arrive à la fin et c'est juste le moment où ils arrivent. Et quand ça arrive, je commence à avoir un petit truc qui s'allume et je me dis ça c'est juste ton rêve, si j'ose dire, ton cauchemar d'enfant qui revient, mais ça ne va pas arriver. Et je vois monter les choses, je me dis le gouvernement n'en prend pas la mesure, mais ça devrait bien se passer. Et mon déclic, moi, c'est un court passage à la télévision de Matteo Renzi, l'ancien Premier ministre italien. Et on se croirait dans un film, on se croirait dans Contagion ou dans n'importe quel film post-apocalyptique avec Jeff Goldblum. Il y a un fond bleu derrière lui, il est blafard, il est transpirant, il a le cheveu de travers, et il parle dans un mauvais anglais avec son accent italien, et il dit « mes amis européens, ne faites pas l'erreur de penser que ce qui nous arrive en Italie est dû au fait qu'on est un pays du tiers-monde. Ce qui nous arrive va vous arriver dans quelques jours. Faites attention, nous nous sommes moqués de la Chine, nous nous sommes moqués des Chinois. Ne vous moquez pas des Italiens en pensant que nous sommes les petits frères arriérés de l'Europe. Ça va vous arriver dans la gueule. » Je l'ai entendu et je me suis dit, ce type, c'est le cavalier de l'Apocalypse, même si c'était généreux ce qu'il faisait. C'est un type qui met en jeu sa carrière politique et sa réputation pour dire « ne faites pas l'erreur qu'on a faite, ne perdez pas quelques jours de plus ». Et là, je me suis dit « mets ta ceinture, on y va ».
Nicolas ?
Oui, c'est intéressant ce que dit Christian, parce que je me souviens exactement de cette allocution de Matteo Renzi qu'on a regardée aussi et précisément après cette annonce, ou en tout cas cette publication de contamination présymptomatique, on se disait effectivement, on va tous y passer, et si on ne réagit pas immédiatement, et comme le disait François, un jour, ça compte très fort quand on est dans des dynamiques épidémiques qui étaient celles de la première vague. Voilà, bref. Non, moi, il y a une autre allocution qui m'a marqué, et pas dans le bon sens du terme, c'est l'allocution du président de la République. Et c'est quand même aussi quelque chose que je tiens à rappeler, parce que je pense que c'est vraiment important de garder cette idée-là en tête et la notion de proportion. Covid est une épidémie qui a paralysé la planète, qui touche et qui concerne absolument tout le monde, mais qui, comme le rappelait François, a un taux de létalité qui est relativement faible. Et entre guillemets, on a de la chance, entre guillemets, parce que ça touche les plus fragiles, les plus âgés et les gens qui ont la santé la plus fragile. Je rappelle, et moi j'ai été extrêmement choqué par l'allocution d'Emmanuel Macron quand il dit les yeux dans les yeux à la télévision aux citoyennes et aux citoyens français que c'est la plus grave crise sanitaire que le monde contemporain ait connue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1981, on a découvert un virus dont la létalité n'est pas de 0,45, elle était de 100%. C'est le VIH. Le VIH, c'est 40 millions de morts aujourd'hui. C'est une maladie qui ne se soigne toujours pas. C'est-à-dire que maintenant, heureusement, grâce aux trithérapies, aux antirétroviraux, on peut vivre avec. Mais on ne guérit pas du VIH. Et évidemment, c'est une maladie qui a touché les homosexuels, les toxicomanes, les prostituées dans un premier temps, puis ensuite les pays du Sud, et donc qui n'a pas eu la même répercussion. Mais enfin, encore une fois, quand on se dit, moi, quand j'entendais dire ah, le Covid, c'est vraiment une saloperie, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est que le VIH. Le VIH, c'est la pire des saloperies. Le VIH, c'est un rétrovirus. Vous le contractez, il rentre immédiatement dans votre ADN, il est codé dans votre ADN, il se planque dans des cellules souches, dans des cellules réserves qu'on ne sait pas encore totalement identifier. C'est pour la raison pour laquelle, quand on arrête le traitement, même après des années, le VIH ressurgit parce qu'il est intégré à notre code génétique. Et le VIH, c'est 9000 nucléotides. Le coronavirus, c'est 30 000. Si on parle d'une saloperie, le VIH, je tiens à le rappeler, c'est quand même la pire des saloperies.
Oui. En fait, on a effectivement tendance à oublier que ce coup de tonnerre dans un ciel bleu qu'on a connu, nous, c'est le lot commun d'une partie essentielle de l'humanité. Parce qu'on peut parler du VIH, qui est apparu dans les années 1920 en Afrique et qui ensuite a diffusé, etc. Enfin bon, il y a une histoire très, très intéressante de la façon dont le VIH s'est propagé. Mais on pourrait parler tout simplement du paludisme, on pourrait parler de la dengue, on pourrait parler de la fièvre de la vallée du Rift, enfin de tout un tas de virus qui sont endémiques sur toute une bande, enfin sur toute la bande sud de la planète et qui sont le lot commun de la vie de la moitié de la population humaine.
Et qui tue les enfants notamment.
Pour le paludisme. Encore plus que le VIH. Et pour le paludisme, on n'a toujours rien qui permette de l'éliminer de façon définitive. Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, ce que ça montre aussi, c'est peut-être que notre lot à nous va redevenir le lot commun de l'essentiel de l'humanité. C'est peut-être là une des grandes leçons qu'il faut retenir.
Dans ce que vous dites, il y a quand même une grande différenciation du coup entre la réponse sociétale et politique et le virus en fonction de qui est touché, de la létalité. C'est exactement ce qui se passe à l'instant T. Là, du coup, ça touche tout le monde, ça touche les grands-parents, les personnes malades, et du coup, on essaye de s'organiser plus ou moins vite. Mais ça veut dire que la réponse sociétale, elle dépend du virus.
Je ne sais pas si elle dépend vraiment du virus, la réponse sociétale, au sens où...
La réponse politique, peut-être.
D'une certaine façon, ce qu'on voit aussi, et je suis très 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 loin de mes bases arrières, donc je ne parle plus en tant que chercheur de l'Institut Pasteur, là. Je tiens à le préciser. D'une certaine façon, quand on voit les différentes réactions des différents gouvernements, ça répond aussi à une forme de conception qu'avaient les hommes politiques en place de leur responsabilité vis-à-vis de leur pays. Ça signifie aussi qu'il y a une relation avec les priorités qu'ils ont faites. En France, la ligne de conduite a été dictée essentiellement par une crête qui était de dire... on tient l'hôpital juste à la limite de ce qu'il est capable de donner. En gros, vous aviez un arbitrage à faire entre des mesures sanitaires qui étaient éventuellement plus efficaces ou plus puissantes, mais qui auraient coûté beaucoup plus cher en termes, pas simplement économiques, aussi en termes sociaux, en termes d'éducation, etc. Où vous aviez la possibilité, à l'inverse, de considérer que ces mesures économiques, sociales, etc., méritaient de relâcher du côté de la pression sanitaire. Et la ligne de crête, a priori, de ce qu'on peut voir en France, c'est que ce qui a servi de fil conducteur, c'est de maintenir l'hôpital juste à la crête. Lui laisser, ne pas le faire basculer dans la médecine de guerre, mais ne pas le ménager. Ce qui était une réponse qui est parfaitement légitime en tant que tel. On pourrait en discuter ensuite sur un certain nombre de choses, à quoi a servi le temps qu'on a acheté pendant le premier confinement, etc. Mais enfin bon, quand vous voyez ce qu'ont fait l'Angleterre, qui ont décidé, ou la Suède, ou sur l'idée on va essayer d'acquérir une immunité collective qui n'était pas atteignable, quand vous voyez le cynisme du Brésil, vous vous dites que peut-être qu'une deuxième leçon, c'est de se dire qu'après tout, il est relativement anormal dans des pays qui devraient être des démocraties, que autant de pouvoir, et je ne parle pas pour nous, soit confié, enfin je parle pour nous parce que c'est vrai, mais ça ne s'est pas traduit de façon trop détrimentale, soit confié à un tout petit nombre de personnes qui prennent des décisions aussi importantes que l'équilibre entre la partie sanitaire et la partie le reste.
Christian Lehmann.
Je suis d'accord avec ce qu'a dit François Bontemps, mais... La question, c'est bien sûr que les décisions se prennent en fonction des axes qui ont été décidés auparavant. Si la variable d'ajustement, c'est le fait que l'hôpital doit tenir sur les lignes de crête sans s'effondrer, c'est une bonne idée de ne pas l'avoir mis à genoux auparavant. C'est une bonne idée de ne pas avoir laissé disparaître un stock de masques de pandémie dont tous les avis d'experts disaient qu'il était nécessaire et qu'il ne coûtait pas très très cher. Mais il y a plein de gens qui nous disent que nous sommes dépensiers, que sont de bons gestionnaires en père de famille et qui, pour économiser sur 10 ans l'équivalent de 900 millions d'euros sur ce stock de masques, ont mis le pays à genoux pour des dizaines de milliards. Donc ce questionnement, il existe aussi. C'est vrai que par rapport à un pays négationniste, avec un dictateur négationniste comme le Brésil, ou des gens qui étaient dans le laisser-faire l'Angleterre, les États-Unis au départ, on s'en est pas mal tiré. Mais on s'en est pas mal tiré avec le système entier, sociétal et médical, dans l'état où il était. Et la réalité, c'est que vous savez tous qu'on a réfléchi, qu'il y aurait un monde d'après, que les choses seraient plus heureuses. Je peux vous dire que ce soit en ville ou à l'hôpital, dans le système de santé, et probablement partout ailleurs, le monde d'après, il a la gueule du monde d'avant, simplement mal rasé le lendemain. Ah oui, j'ai un truc qu'il ne faut pas oublier pour les pandémies, un truc que nous a appris la pandémie, qu'il n'y avait pas dans nos romans ou nos films science-fiction, c'est que dans une pandémie, personne n'est rasé ou bien peigné pendant les 2 ou 3 premiers mois du confinement. Donc ça, il faudra que les scénaristes s'en souviennent. Tout le monde a la gueule de Bernard-Henri Lévy un soir de biture.
On est d'accord, la pandémie, niveau capillaire, c'est le pire.
Christian a absolument raison. Enfin, Christian et François, ce qui nous a paru aussi à la méthode scientifique assez flagrant et du coup assez terrifiant, c'est que sans minimiser d'aucune manière la dangerosité de ce virus et sa dangerosité pour les personnes, encore une fois, les plus fragiles, néanmoins, je vais le dire de manière un peu provocative, mais on a eu de la chance. Vraiment, on a eu de la chance. Ce virus, il est méchant, mais il n'est pas si méchant que ça. Ce qu'on a payé, en revanche, et ce qui est très méchant pour le coup, c'est précisément ce que rappelait Christian. C'est-à-dire, ce qu'on a payé, c'est des politiques sanitaires depuis 20 ans, 30 ans, qui demandent à l'hôpital non plus de remplir un service public, mais de fonctionner comme une entreprise et de dégager de la rentabilité. C'est ça, hein, les fermetures de lits dont on vous parle, c'est de dire, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ferme des lits à l'hôpital alors que ça peut paraître comme ça, genre absolument insupportable ou débile ou... Mais on ferme des lits parce que ce sont des lits qui ne sont pas occupés. Donc ce sont des lits qui coûtent de l'argent à l'État, au service public, et qui, eh bien, quand d'un seul coup il y a un virus qui arrive et qui aurait besoin de ces espaces non occupés, eh bien, quand on demande à l'hôpital de se comporter comme une entreprise et d'être rentable, donc de fonctionner à coût resserré pour avoir exactement à flux tendu, comme l'expliquait Christian, pile poil la ligne de crête et pas plus, eh bien, quand il y a un afflux, d'un seul coup, il n'y a plus de place. Donc en fait, aujourd'hui, de façon encore une fois un tantinet provocatrice, la mortalité du Covid, elle est peut-être moins le fait de la létalité du virus que de la conséquence des politiques publiques de l'hôpital depuis 20 ou 30 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais...
Christian, et puis après, François.
Je vais juste mettre un truc. En ville, et sans remettre en cause le problème financier, il y a un gros problème de gouvernance administrative. C'est-à-dire qu'en gros... Pour éviter que les médecins isolément fassent n'importe quoi, on a mis en place des agences régionales de santé. Le problème, c'est que ces agences régionales de santé disent que nous avons, nous, généralistes, une responsabilité territoriale populationnelle sans qu'on en ait le moindre moyen. Et en règle générale, toute personne qui essaye de monter quelque chose, un centre de soins, etc., va se retrouver avec des réunionites pendant 5 ans dans lesquelles il va s'épuiser. Là, il s'est passé l'inverse. Et ceci dit, ça, je trouve que c'est une pensée très positive et optimiste. Le dimanche 15 mars au soir, c'est la fin du premier tour des élections municipales. Ça fait une semaine que sur Twitter, tous les urgentistes, tous les réanimateurs, tous les cardios, tous les généralistes qui peuvent disent aux gens « on s'en balèque de vos élections, n'y allez pas, c'est un endroit où vous allez être contaminés ». Alors même qu'on a fermé les écoles et que dans 2 jours on va confiner, on fait les gens voter parce qu'on a du mal à changer de paradigme, puis on dit qu'on va les confiner. Le lundi, je téléphone au maire de ma ville, dont je suis opposant politique depuis toujours, mais qui est un type intelligent. Je lui dis ce qu'on va se prendre. Il me donne un hangar, grand comme ici, pour créer un centre de soins Covid adossé à l'hôpital pour éviter que l'hôpital soit submergé. Et on fait tout ce qu'il y a à faire. Je me souviens, j'arrive ce matin-là, j'avais l'impression d'être Jeff Goldblum dans les films américains, le syndrome de l'imposteur en plus. C'est-à-dire que je suis arrivé avec mon masque et le maire, les gens se tournaient vers lui, le préfet, les trucs, il dit non, vous voyez ça avec le docteur Lehmann. Et je me disais, putain, mais dans quoi je me suis mis? J'y connais rien. J'ai juste derrière moi Contagion, des films, comme je dis, des films avec Jeff Goldblum et avoir lu Le Fléau. Si je me plante, ça va être une cata. Et en fait, on apprend énormément de choses dans tous ces films, y compris Cloverfield, comment mettre des tentes dans un hangar, par exemple. Et donc, on a mis ça en place. Et secondairement, le jour avant qu'on ouvre, l'ARS, le gouvernement, etc., sont venus avec des papiers à nous faire signer en tremblant, etc. Heureux que ces clampins de première ligne à qui on n'avait jamais fait confiance pendant 20 ans aient pris les choses. C'est-à-dire que ça soit l'infanterie qui ait décidé du plan de combat à notre petit niveau. Donc ça aussi, c'est un vrai problème, le problème de la gouvernance.
Alors, je suis tout à fait d'accord sur l'état de délabrement de l'hôpital, la comptabilité, enfin, le fait d'être passé, d'avoir une comptabilité à l'acte et de ne pas l'utiliser comme un service public. L'hôpital, ça devrait être un peu effectivement comme la police ou les pompiers. Ça devrait ne pas avoir besoin de servir tout en étant là. Je pense aussi qu'effectivement, il y a un problème de gouvernance important et que nos gouvernances ne sont pas adaptées. Maintenant, je voudrais quand même dire quelque chose qui est que je ne suis pas du tout en train de vouloir défendre la politique qui a été menée et ce n'est pas du tout mon message. Mais ce que je veux dire, c'est que croire que l'épidémie résulte d'une série de dysfonctionnements qui auraient pu être évités si les institutions avaient fonctionné de façon parfaite me paraît être un leurre total et absolu. Parce que voilà, on aurait eu les millions de masques, on aurait été capable de réagir beaucoup plus vite et il est évident que c'est criminel de les avoir laissés se détruire. Mais la prochaine, elle sera peut-être pas du tout lié à des problèmes de contamination aérosol. Et les millions de masques qu'on aura aujourd'hui, même si c'est très bien et qu'il faut qu'on les ait la prochaine fois, ne serviront peut-être à rien. Ce que je suis simplement en train d'essayer de dire, c'est que, de mon point de vue, une pensée qui consisterait à se dire « c'est de la cause de dysfonctionnement qu'on paye et il y aurait un moyen de construire un monde idéal dans lequel nous n'aurons pas à réagir, nous n'aurons pas à être confrontés et nous nous en sortirons parce que nous préviendrons tout à l'avance » me paraît être assez dangereux.
Mais est-ce que la problématique sur les masques, en fait, c'est pas tant qu'on soit tous comprendre qu'il y a un dysfonctionnement parce qu'on a détruit des masques, parce qu'à l'instant T, on n'en voyait plus l'utilité, mais c'est d'avoir une porte-parole du gouvernement qui explique que c'est difficile de mettre un masque et que ça sert à rien.
Non, mais ça, c'est de la compétence, c'est autre chose. Oui, pardon, François, je te coupe la parole, mais parce que ce que tu dis est évidemment extrêmement juste et sans faire l'apologie de qui que ce soit, je pense que personne n'était préparé et qu'il n'y a pas. Il y a des gouvernements qui ont fait bien pire, le Brésil, les États-Unis dans une certaine mesure. Mais finalement, il y avait pas de bonne façon de se sortir de ça. C'est-à-dire que c'était les gouvernements se sont démerdés en faisant des choix plus ou moins judicieux, certains bons, certains mauvais. On peut prendre l'exemple de la France, dont on disait que c'était l'un des pays les plus vaccino-sceptiques au monde. Et résultat, on a la couverture maximale qui est certainement l'une des plus élevées au monde. Donc ça ne dédouane personne, mais c'est dire que personne n'était préparé. Néanmoins, s'il y avait eu 5000 lits de réanimation en plus, il y aurait eu la moitié moins de morts. J'exagère, mais les proportions ne sont pas bonnes, mais enfin, voilà.
Alors,
ce que je veux dire.
Le problème des lits de réanimation, comme vous diront tous les réanimateurs, c'est que le but, c'est que les gens n'aillent pas dans un lit de réanimation. Parce que la réanimation, c'est non seulement les soignants autour qui sont nécessaires, mais 3 semaines de souffrance physique et morale intense, et ensuite une rééducation qui est extrêmement difficile. Donc, ouais. Mais il y a autre chose que je voudrais dire au sujet des masques. Les masques, on les a laissés disparaître. Le gouvernement le sait ou s'en rend compte petit à petit. On a l'épisode Benjamin Griveaux sur lequel je ne reviendrai pas et on se retrouve avec un nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran. La première chose qu'il fait, c'est qu'il demande un audit. Et très rapidement, en 48 heures après son arrivée, il sait qu'il n'y a pas de masque. Et à ce moment-là, avec sa task force de santé publique, ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'on fait ? Soit on le dit, ce qui va créer une sidération, soit on se tait et on verra bien, on sera peut-être sauvé, peut-être qu'il y aura des masques qui arriveront de Chine, etc. Et ils font cette erreur monumentale de gestion sociétale, politique de l'épidémie. Ils mentent. Ils disent qu'il y a suffisamment de masques, que c'est un non-sujet. Dans le même temps, ils essayent de récupérer le peu de masques qu'ils ont et ils se débrouillent pour que la population n'en ait pas en lui disant « ça ne sert à rien, n'en mettez pas ». Au bout d'un temps, tout mensonge se paye. Et donc, 3 semaines après, 1 mois après, ils sont obligés de dire qu'il n'y a pas de masques. On se retourne à ce moment-là et on se rend compte que c'est le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui est toujours en poste, qui en est un des principaux responsables. Que tous les hommes politiques de droite et de gauche qui sont en train de dire que non, finalement, cette gestion, elle est pas mal du tout, ben, ils le disent aussi parce qu'ils sont mouillés dans cette affaire, parce que ce soit le gouvernement Touraine ou avant, ils ont fait disparaître les masques. Mais je ne suis pas en train de vous faire un cours de militantisme politique. Je dis que sans ce mensonge originel, on n'aurait pas eu quelque chose qui a été la peste en plus du virus, c'est-à-dire les gens n'ont plus cru ce qui leur était dit. Et donc, on a eu les anti-masques, puis les anti-vax, les anti-passes sanitaires, et la pire débilité, y compris que des reptiliens illuminati juifs ont mis de l'ADN de serpent dans le vaccin Pfizer pour que vous soigniez au portique de l'aéroport, a été crue. Et n'a pas été crue que par des gens qui sont dans le milieu complotiste. Mais si le gouvernement est capable de te mentir sur un truc aussi simple que le masque pourrait te protéger, toi et tes enfants, comment tu vas lui faire confiance sur la suite? Et donc, au-delà de la question de l'argent qui a été perdu, ce choix qui a été fait consciemment de mentir un temps, on n'arrête pas de le payer encore maintenant.
C'est ce qui me semble, c'était mon exemple de tout à l'heure, hein, sur les masques. Nicolas, François ?
Oui, non, et c'est ce que dit Christian est absolument vrai. Et nous, en tant que. Puisqu'il y a eu la méthode scientifique, mais donc très vite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on est passé dans quelque chose d'assez sidérant et d'assez inquiétant. C'est-à-dire que Radio France a une mission de service public qui est la continuité de l'antenne en cas, à l'origine, de guerre. De guerre. C'est-à-dire que Radio France avait, par exemple, à la maison de la radio, il y a des studios enterrés en sous-sol, reliés par câble, au cas où il y a une guerre nucléaire, pour pouvoir continuer à émettre et pour pouvoir continuer à informer les gens. C'est une des missions de Radio France. Pour la première fois de l'histoire de cette maison, lorsque tout le monde a été confiné, toutes les antennes, France Culture a disparu. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est France Inter qui a complètement chamboulé ses programmes et qui a fait des programmes d'information de guerre. C'est-à-dire qu'on était quand même dans un réflexe de... voilà. Et puis petit à petit, on s'est organisé. France Culture est revenue pour la matinale, pas pour le reste des programmes, bref. Et donc on a fait cette chronique qui s'appelait Radiographie du coronavirus avec l'équipe de la méthode scientifique qui était un point quotidien pour essayer justement d'y voir clair parce que tout était très confus, très obscur et que très rapidement... on a commencé à lire et à entendre n'importe quoi. Et donc, voilà, nous, notre ambition, c'est de dire, ben, nous, on lit les études et on revient et on vous dit où en est la science. Et parfois, quand la science s'est trompée, eh bien, on revient et on dit, notamment, au début, on a eu la trouille terrible de dire, ben, il faut fermer les écoles immédiatement parce que les écoles sont des foyers de contamination et que, comme pour la grippe, les enfants sont des réservoirs viraux. Eh bien, ensuite, on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas. Le problème, et comme le dit Christian, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand la parole du gouvernement est totalement discréditée à cause de l'affaire des masques et qu'on dit on va recommencer et on va ouvrir et on va ouvrir les écoles, mais pourquoi est-ce que les gens se mettraient à croire que c'est safe de rouvrir les écoles alors qu'on leur a dit 2 mois avant que les écoles étaient un endroit extrêmement dangereux et que les enfants étaient probablement des vecteurs viraux? Et le problème, c'est que ça commence par ça, par les masques, par la décriminalisation de la parole du gouvernement, et ensuite, par un travail alors vraiment, je suis pas très confraternel, mais je suis désolé de le dire, de saccage de l'information par des médias privés qui ont donné la parole à n'importe qui pour dire n'importe quoi. Et vraiment, et bon, alors évidemment, on va citer son nom, même si on n'a pas envie d'en parler, Didier Raoult. Quand on voit passer l'étude, quand on lit la première étude sur les 8000 cas de l'IHU, moi je tombe sur cette étude et je vois Alexandra Delbo, qui est ma collaboratrice, qui est scientifique et journaliste, et on regarde ça, on se dit, mais cette étude-là, si c'était un étudiant en thèse qui la présenterait, on lui renverrait dans la gueule en disant, mais tu retournes sur ta paillasse, c'est ni fait ni affaire, comment est-ce qu'on peut tirer des conséquences d'une étude sans groupe de contrôle? Non mais, enfin, pour que vous compreniez bien, c'est de dire, à un moment donné, on donne de l'hydroxychloroquine à des gens et on fait un test en endpoint en disant ils sont guéris, mais de facto, 93% des gens guérissent naturellement du coronavirus. Donc on leur donne de l'hydroxychloroquine, du Coca-Cola, du LSD ou des danettes au chocolat. Ça, on obtient exactement les mêmes résultats. Parce qu'on n'a pas en face un groupe de contrôle pour voir ce qui se passe si ces personnes-là n'ont pas pris le produit en question. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'idée de tester un médicament sans groupe de contrôle, c'est même pas que ça contrevient à l'éthique de la recherche ou à l'éthique médicale. C'est que, je n'ai pas de mots pour le qualifier, ça n'a pas de sens, c'est rien. C'est pas de la recherche, c'est de la pisse. Non mais vraiment, enfin, c'est rien d'autre que ça. Et malheureusement, par manque de culture scientifique, par ignorance, par appât du gain aussi, parce que ce monsieur devient à un moment donné une personnalité publique, politique, et que, excusez-moi, quand on est une chaîne d'information privée et qu'on fait de l'audience, eh bien, le quart d'heure de pub, ça paye mieux. Donc on gagne plus d'argent, hein, je veux dire, c'est ça, aujourd'hui, la réalité. La réalité, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus sur la volonté de retranscrire le réel, d'informer de la situation du monde. On est dans la volonté de dire, eh bien, s'il y a plus de monde, je gagne plus d'argent parce que je vends plus de publicité. Et c'est pour ça que ces chaînes-là, qui sont aujourd'hui, à mon sens, absolument coupables d'avoir ouvert leur micro dans ces conditions, chez lui, dans son bureau, dans cette espèce de décorum absurde à ce type qui est un escroc, qui a fait un mal de chien à la société, enfin... Ça, c'est le mal dans le mal. Et nous, on s'est battu contre ça. Et vous n'imaginez pas. Moi, j'ai rien contre Didier Raoult. Hein. Peut-être que c'est un honnête homme, je n'en sais rien. C'est pas à moi de le juger. Je ne le pense pas, mais par ailleurs. Non, mais je m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est que la réalité de ses études et le mal qu'il a fait à la société avec ce produit de merde et ses études de merde, et puis avec ses positionnements débiles, enfin bon, bref, il a fait un mal de chien, il a compliqué les choses, il a compliqué le rapport à l'information, il a été une barrière dans le rapport entre l'information et les citoyennes et les citoyens. Si vous n'imaginez pas les mails, le nombre de messages, d'insultes que j'ai reçus, pas pour dire Didier Raoult est un escroc, pour dire aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas attester que l'hydroxychloroquine est une efficacité. Il faut une étude gold standard. Pour dire ça, aujourd'hui devant vous, je dis que Didier Raoult est un escroc parce que je le pense, mais ce n'est pas ce que je disais à l'antenne, parce qu'aujourd'hui je parle en tant que Nicolas Martin, et à l'antenne je suis journaliste de France Culture, donc ce n'est pas la même chose. Mais vous n'imaginez pas la violence de ce que j'ai reçu, des attaques sur ma vie privée, des attaques sur ma sexualité. Non, mais vous n'imaginez pas la violence que cette personne-là a diffusé dans la société. Et ça, c'est vraiment... voilà, bref. Je suis désolé, je...
En fait, tout ce que cela dit, et je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit sur... tout ce que cela dit, c'est une imbrication très profonde et très compliquée à désimbriquer entre la parole scientifique... La parole scientifique qui sert à légitimer le pouvoir politique, la manque de confiance des institutions et des gouvernements dans les gens. L'une des choses que moi je regrette le plus, c'est que au bout d'un an et demi de pandémie, il y a tout un. Enfin, je veux dire, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un que j'estime beaucoup, et je lui disais, on vient de sortir quand même de la phase la plus dangereuse de toute l'épidémie, parce que un fort taux de vaccination en présence d'un virus qui circule activement, c'est le moment le plus dangereux. Cette personne travaille dans l'administration française et m'a dit pourquoi. Et je me suis dit, voilà, pourquoi ? C'est parce que si jamais il est possible de faire apparaître des variants résistants, ils vont être sélectionnés. Ça ne signifie pas qu'il en apparaîtra, ça ne signifie pas forcément que ces variants seront dangereux pour nous, comme la dangerosité et la résistance sont orthogonales, on peut très bien, ce qui serait une bonne nouvelle, sélectionner des variants résistants qui ne soient pas dangereux, auquel cas on aura un vaccin spontané qui se mettra en place. Mais enfin, on passe quand même, on vient de passer une période très dangereuse. Et ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui me frappe, c'est de me dire que, au bout d'un an et demi, toute une série de choses qui devraient être évidente. Je ne prétends pas que tout le monde doit être virologue. Je prétends qu'au bout d'un an et demi d'une pandémie dont tout le monde a parlé et qui a occupé les médias, les infos, etc., toute une série de choses qui relèvent du basique de la connaissance de la virologie n'aient pas été transmises. Je regrette aussi, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, un confinement, ça sert à acheter du temps. C'est la seule chose. Le seul problème, c'est qu'on a quand même l'impression qu'à la sortie du premier confinement, le gouvernement n'avait aucune idée de quoi faire du temps qu'il avait acheté. La preuve, c'est qu'il n'a rien fait. Il y a eu une expérience qui a été montée justement par Renaud Pierroux, qui consistait un peu sur la médecine d'urgence telle qu'elle est pratiquée dans les pays où il y a du choléra, des équipes pour faire du contact tracing, remonter les chaînes, etc. C'était une voie possible en absence du vaccin. On reparlera peut-être du vaccin ensuite. Mais cette voie n'a pas été explorée. Ce qui signifie que, à force de ne pas faire confiance dans les gens et à force de considérer effectivement que les gens sont incapables de comprendre et que la seule chose qu'ils comprennent, c'est que ne pas porter votre masque va vous coûter 135 euros d'amende, on n'a peut-être pas créé les conditions suffisantes pour que la plupart des gens prennent en charge eux-mêmes une bonne partie de la façon dont le gérer. Ça rejoint cette idée du mensonge initial. Mentir et détruire la confiance était effectivement un acte non seulement stupide, mais relativement criminel. Ça revient aussi à ça. On peut effectivement dire qu'une bonne partie des médias n'ont absolument pas fait leur travail, qui aurait été de faire de la formation, qui aurait été d'expliquer, de faire des cours de virologie et de vaccinologie.
Et d'être capable de dire on ne sait pas. Ne sait pas, ce qui est hyper important, François. C'est-à-dire de dire qu'à un moment donné, on ne savait pas, et il y a des informations qui manquaient, de dire là-dessus, on n'a pas assez de données, on ne sait pas, on doute.
Je suis tout à fait d'accord. Ce qui est aussi absolument phénoménal quand on prend l'époque de Didier Raoult, c'est que toutes les études, les unes derrière les autres, ne disaient pas qu'il avait tort. Elles disaient simplement qu'il n'a pas moyen d'affirmer qu'il a raison, ce qui n'est pas du tout pareil. Il a le droit de faire les essais qu'il veut, pas des essais présentés comme des essais thérapeutiques. Il a le droit de faire du soin, mais il n'a pas le droit de prétendre que ça marche. Ça, c'est totalement faux.
Il a le droit de faire bisbeuf.
Non, il n'a pas le droit de faire des essais. Un médecin a le droit de faire un soin parce que, en son âme et conscience, il considère que ce soin a des chances de sauver son malade. En revanche, il n'a pas le droit de prétendre que ça marche et de dire ça doit devenir la norme. C'est là où est le grand mensonge.
Et de dire fin de partie pour le coronavirus. Ouais. Parce que fin de partie pour le coronavirus, ça fait un titre et ça vend.
C'est le 26 février.
Oui, c'est ça.
C'est le 26 février sur un préprint chinois dont on verra ensuite jamais.
Non, de toute façon, c'était... Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on a quand même eu le sentiment que normalement, le scientifique est là pour donner des informations aux politiques, qui a la responsabilité de faire les choix. On a quand même eu le sentiment que, à un moment donné, le politique a voulu challenger le scientifique en disant c'est le moment où Macron a dit, au moment du troisième confinement, en réalité, les scientifiques se sont trompés, les projections de Simon Cauchemet sont fausses, etc. Scientifique, enfin, je veux dire, une projection, une simulation n'est pas une devination, au sens où elle n'est pas là pour dire l'avenir, elle est là pour vous dire ce qui va se passer si vous ne faites pas un certain nombre de choses. Et
je voudrais y consacrer nos cinq dernières minutes.
Voilà, juste finir. En délégitimant ça, on a transformé un conseil scientifique en une parole scientifique qui devient un enjeu politique. Et ça, c'est extrêmement grave.
Une seconde, Christian. Juste vraiment deux secondes. Non, mais c'est intéressant pour rebondir sur ce que vient de dire François. C'est qu'on a étudié, j'avais fait venir à la méthode scientifique des gens qui montrent comment la figure de Didier Raoult est apparue dans les médias. En fait, Didier Raoult, après sa première étude, on en parle un peu et ça chute. La personne qui est à l'origine de la reprise publique d'importance de Didier Raoult, c'est Emmanuel Macron quand il va le visiter à Marseille. Et c'est lui qui est responsable de l'exposition médiatique de Didier Raoult.
Il lui a été très utile. Quand il revient de la guerre d'Espagne, George Orwell dit que les combattants républicains, les combattants espagnols, sont pris « between the bullet and the lie », entre la balle du fasciste en face et le mensonge du stalinien derrière. Et pour les gens qui ont voulu informer, comme toi, pour les soignants, comme moi, on a été pris entre la balle et le mensonge. C'est-à-dire qu'il fallait tenir la ligne entre le virus et tout ce que le mensonge nous ramenait dans le dos. Quand j'ai vu Contagion, c'est un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque, Mais j'ai trouvé que le personnage du complotiste joué par Jude Law, je me suis dit, bien tiens, ils l'ont créé parce qu'ils avaient besoin d'un antagoniste humain pour que les gentils, si j'ose dire, aient à se battre contre quelqu'un qui soit incarné. Et je me disais, bon, c'est un peu gros, qui est-ce qui va croire un type pareil? Ben, la réalité, c'est que j'avais totalement tort et que Soderbergh avait été visionnaire. Les gens ont eu peur, tellement peur qu'ils ont cru une figure, j'ai envie de dire christique, paternelle, qui disait des choses absolument dingues. En fait, c'est un mandarin narcissique des années 50-60, comme toute ma génération a essayé de les mettre à terre. Ça, normalement, ça ne devrait plus exister, des gens comme ça. Des gens qui disent « je ne veux discuter avec personne d'autre car je suis l'élite ». Mais comment est-ce qu'on croit ça? Ce qu'on a vu, c'est que les gens ont eu besoin d'être rassurés et une fois qu'ils étaient accrochés à lui, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Et nous, on a été pris entre la lutte contre le virus, spécialement au moment où on a commencé la campagne de vaccination en janvier. Le gouvernement, c'est moi et mon maire qui avons créé le premier centre vaccinal français hors EHPAD et hôpital à Poissy. Parce qu'on s'est dit, si on continue comme ça, on n'y va pas. Le gouvernement était là en disant, on a vacciné 532 personnes la semaine dernière. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et on se regardait en disant, mais ce n'est pas possible, quoi. Et en fait, ils avaient peur de ça. Donc, il a fallu aller de l'avant. Mais c'est pour ça qu'on a eu des attaques, des insultes, comme tu dis, des mails d'insultes. Alors, on attaque les gens sur la sexualité. Moi, ils ont découvert la semaine dernière que j'étais rôliste. Et donc, ils nous font... Non, mais je vous jure, ils sont en train de nous faire un délire à la Mireille Dumas et à la Jacques Pradel des années 80. Ouais, mais enfin, ces rôlistes geeks, etc., ils connaissent pas la réalité. Comment ils peuvent discuter de science avec Didier Raoult? Mais putain, mais jamais je discuterai de science avec Didier Raoult. J'ai autre chose à foutre.
Je veux bien juste ajouter effectivement quelque chose sur ma partie, qui était évidemment celle de la tentative d'information au plus près, et Dieu sait que ça a été compliqué, et Dieu sait qu'on a fait des choses, et effectivement, hein, dire fin de partie pour le coronavirus, ça fait un bandeau, ou ça fait un grand titre de journal, on n'est pas sûr des résultats d'une étude, ça n'avait pas les grands titres d'un journal, et pourtant c'est la réalité scientifique. Et donc rappeler, et passer des mois à rappeler qu'il y a un incompris parce que les médias français ont massivement abandonné la vulgarisation scientifique depuis des années. Je veux dire, j'ai la chance et le privilège de travailler pour un groupe qui peut se targuer d'avoir non seulement deux quotidiennes scientifiques, mais des hebdomadaires, Darwin, Amezen, bref, etc. Donc, moi, je suis un privilégié parce que je travaille pour un média qui m'a fait confiance et qui m'a laissé absolument libre de faire le travail qui nous semblait être le travail important et qui nous a soutenus pour faire ça. Mais quand on fait ce boulot-là, qu'on se fatigue, parce que objectivement c'est épuisant parce qu'on était jour et nuit tout le temps sur le pont, qu'à un moment donné je faisais la chronique de la matinale plus la méthode scientifique plus les idées claires, bref, c'était on a beaucoup bossé et ça nous semblait essentiel de faire ce travail là et d'un seul coup on a ces je suis désolé, je vais être vulgaire, mais ces connards qui reçoivent Montagnier pour dire que le coronavirus a des séquences de VIH et que c'est manufacturé par l'être humain. C'était une étude, c'était un préprint qui a été publié par trois Indiens qui ont effectivement retrouvé des séquences de nucléotides similaires entre le VIH et le Covid. Mais c'est exactement comme si vous prenez Marc Lévy et Flaubert et vous dites, il y a deux fois le mot chat, c'est donc que Marc Lévy s'est inspiré de Flaubert. Bon, enfin, c'est débile. Voilà. Et d'un seul coup, pour les raisons que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire pour faire de l'audience, on accepte de mettre sur un plateau avec un animateur demeuré, réactionnaire, un type complotiste qui dit n'importe quoi, et c'est vendu comme de l'information. Et nous, derrière, eh ben nous, on sort les rames et on reprend les vagues d'insultes, etc. Et ça, je suis désolé, mais je trouve aujourd'hui, et ça me met, je suis désolé parce que ça me fout en rogne, mais je trouve qu'aujourd'hui, ces médias-là qui font ce qu'ils veulent, et on ne va pas reparler du contexte général de l'information et des médias privés aujourd'hui en France à 6 mois de la présidentielle, je pense que tout le monde sait très bien de quoi on parle, mais ces médias-là ne rendent de compte à à personne. Et ça, c'est pas normal. Donner la parole à Raoult, n'importe quand, aller dans son bureau et lui servir la soupe, donner la parole à Montagnier qui dit n'importe quoi, ça n'est pas normal pour un média d'information. Et je suis désolé, mais ça, ces médias-là devraient en être comptables devant une autorité publique. Et personne ne le fait. Et ça fout la merde pour tout le monde. Ça fout un bordel noir dans les esprits. Ça remonte les gens contre, les uns contre les autres. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On va tous se taper sur la gueule. C'est quoi l'idée, en fait? Ces médias-là devraient être comptables de raconter n'importe quoi et de donner la parole à des abrutis, à des conspirationnistes et à diffuser du mensonge. Moi, ça me fout en rogne noire. Voilà.
Bien. Alors, j'avais fait un plan à la base. Et évidemment, il y a plein de choses qui ont été dites, et on entend bien, il y a beaucoup, beaucoup d'informations et aussi de colère. Il nous reste 12 minutes. Puisque la question, c'est qu'est-ce que ça nous a appris? Alors, on a appris la défiance du gouvernement et toutes les problématiques autour. Est-ce que, du point de vue scientifique, François et Nicolas, on a appris quelque chose de cette pandémie? Que ce soit la mobilisation extrême, au moins la capacité de mobiliser dans tout le monde entier des chercheurs. Et est-ce qu'on a appris de nouvelles choses?
Alors, sur le coronavirus, on a appris des tas et des tas de choses. Je ne vais pas vous parler du coronavirus parce que d'abord, je ne suis pas compétent. Et ensuite, il y en a pour des heures. On a quand même appris aussi que nous avons été capables, et ce n'est pas évident qu'on pourra le refaire sur n'importe quel virus, parce qu'il y a des virus qui sont totalement réfractaires, mais on a quand même été capables de produire en un an une réponse vaccinale, de mettre au point une technologie qui ne sera pas la panacée. Il faut se méfier de l'idée des trucs magiques, y compris quand elles sont technologiques, mais qui a permis quand même d'enrayer l'épidémie et de la contrôler, et de faire en sorte que, même si ce n'est pas encore un souvenir, ça va s'atténuer. On a probablement appris un certain nombre de choses sur les relations entre pouvoir, science et société, et qu'il y a quelque chose à travailler de ce point de vue. C'est pas complètement, je veux dire, le désengagement, la désimbrication qu'on voit aujourd'hui est essentielle. Mais bon, c'est pas perdu. Donc, oui, on a appris des tas de choses. Et on a appris peut-être une forme de fragilité de notre fragilité et de fragilité de nos sociétés, et que tout ce qu'on a gagné, c'est fragile. Enfin, je veux dire, pour finir sur la vaccination, effectivement, nous sommes un pays vaccino-sceptique, même si, voilà. Sauf qu'on ne voit pas à quel point nous sommes protégés au jour d'aujourd'hui contre tout un tas de choses qui, sinon, nous tueraient grâce à la vaccination. Philippe Sansonetti explique que au 19e siècle, au début du 19e siècle, 30% des enfants mouraient dans les premières années. Au début du 20e siècle, en 1900, c'était 15%. Aujourd'hui, on est tombé à moins de 3 pour 1000. Et ce changement radical de nombre, il est lié à une meilleure prise en compte des règles d'hygiène, il est lié aux antibiotiques et il est lié à la vaccination. Et sans ça, on ne s'en sortirait pas. Donc, il y a peut-être des biens aussi communs qu'il faut penser comme étant nos biens communs. C'est facile de râler dessus quand on est protégé par eux.
Moi, je pense que, comme vient de le dire François, on vient de vivre un moment, évidemment, hors du commun, mais scientifiquement hors du commun. On a produit en un an un vaccin, non pas un, mais 6 ou 7 vaccins différents pour lutter contre une maladie émergente. On devrait collectivement mais célébrer ça comme une victoire majeure de la science, mais comme une victoire majeure de la science qui est à la hauteur d'envoyer des hommes sur la Lune en 10 ans. Je veux dire, c'est du même acabit. C'est une victoire scientifique majeure, majeure. On devrait être tous extraordinairement fiers de ce que la communauté scientifique a accompli, et je suis désolé de revenir à mes vieilles anciennes, mais de se dire qu'on n'est pas aujourd'hui un pouvoir politique qui soit capable d'assumer cette fierté pour des raisons électorales, parce que être fier d'un vaccin, ça fait fuir les antivax. Mais qu'ils fuient, mais laissons-les fuir. Enfin, je veux dire, notre travail, ce serait de les ramener dans le giron de la raison, mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison de douter non seulement de l'efficacité de ces vaccins, mais nous devrions en être fiers. Ça devrait être quelque chose dont nous devrions nous enorgueillir. Et si la recherche scientifique, par ailleurs, pour mettre un petit coup de pied quand même dans la fourmilière, avait été un peu plus soutenue, peut-être que Moderna ou BioNTech auraient pu être des sociétés ou des startups françaises qui auraient été soutenues par Pasteur ou Sanofi. Donc là aussi, bon, bref, on ne va pas revenir sur la politique de la recherche en France, mais soyons incroyablement fiers de ce qui a été accompli scientifiquement, parce que c'est un exploit.
Moi, je crois qu'on a...
Christian.
Parmi les choses qu'on a apprises, je vais faire une palissade, c'est qu'une pandémie, ça touche des gens et ça touche une société. Et dans ce cas-là, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils font société. Je veux dire, moi, quand je me suis retrouvé au confinement, vous êtes retrouvé confiné chez vous, moi, j'étais libre dans un monde post-apocalyptique où rien des infrastructures n'était détruit, mais où j'étais seul sur la route, en ville, je me garais, enfin, j'étais dans cet univers, et les gens venaient à moi pour m'aider. C'est-à-dire que j'allais chez des gens malades et tout, et des gens me filaient à bouffer dans la rue. Des gens venaient au cabinet et m'amenaient des blouses, parce qu'ils avaient des blouses de peintre ou des masques de peinture, etc. Ils venaient parce qu'ils avaient retrouvé l'importance que c'était d'avoir un médecin à côté de chez eux. Pas en se disant « il viendra me voir si j'ai 38 », juste parce qu'ils faisaient société et qu'ils savaient que j'allais chez des gens âgés. J'ai découvert ça. Vous ne pouvez pas imaginer, après une vie à faire de la médecine et à être traité par le pouvoir, le gouvernement, la sécu, comme un dépensier, etc., ce que ça fait dans la vie d'un soignant. Et il y a ceux d'entre nous qui ont compris que nous faisons société, et il y a tous ceux qui ne l'ont absolument pas compris, qui ont dit « moi, je suis en bonne santé, vous pouvez crever, vous m'emmerdez, je ne peux pas aller au café de Flore, je ne peux pas faire, je peux pas passer à la télévision parler de mon 50e bouquin de la décennie, comme Bernard-Henri Lévy, donc cette pandémie doit stopper maintenant. » Donc, il y a ceux qui font société et les autres. Et puis, je finirai avec ce haïku, hein. Qu'est-ce qu'on a appris de la société, de la pandémie? Quand 3 Chinois éternuent, va chez le coiffeur.
Il nous reste 5 minutes. On a le droit à 2 questions avec réponse de 2 minutes 30. Si les questions peuvent se répondre par oui ou par non, ça m'arrange grave.
Merci. Je remercie des gens du public qui ne portent pas le masque, parce que ce que je vais dire, vous allez prendre très peur. Alors d'abord, je remercie les médecins, les soignants, les blanchisseurs des hôpitaux qui étaient en première ligne. Mon médecin traitant, c'est moi qui lui ai amené des masques FFP2 qui venaient du stock de l'État soi-disant moisi. Les masques étaient tout neufs, enveloppés dans des emballages de plastique. Donc le gouvernement Macron a menti. Et dans le TER, début février 2020, je portais, dans le TER qui faisait Saint-Nazaire-Nantes, je portais masque FFP2 et surlunettes de protection. Et il n'y a pas de capteur CO2 dans cette salle. Donc je m'aperçois aussi qu'il y a un sacré problème, parce qu'à Cannes, toutes les écoles sont équipées de capteurs CO2 pour indiquer le risque Covid. Alors, et que George Orwell attaque le gouvernement Macron pour plagiat. Donc ma question est celle-ci. Est-ce qu'on vit actuellement in vivo l'événement qui a été modélisé en octobre 2019 aux États-Unis qui s'appelle Event 201 ? Une pandémie a été simulée dans un hôtel avec sur ordinateur et des spécialistes, dont Georges Gao, le Chinois, qui nous a dit au mois de mars 2020 qu'il fallait porter le masque. Est-ce qu'on vit donc in vivo l'exercice simulé de pandémie avec virus pathogène respiratoire, 65 millions de victimes prévues dans le monde. Actuellement, on doit être à 14-15 millions de morts du SARS-CoV-2. Donc, portez le masque.
Il n'y a pas 14 millions de morts.
D'abord, il y a 4,5 millions de morts, probablement. Ensuite, il y a effectivement eu, il y a quelques années, un exercice. On a accusé Bill Gates d'avoir provoqué le virus parce qu'il aurait prédit le virus, etc. En réalité, ce qui est intéressant, c'est que Bill Gates a pris des hypothèses raisonnables de ce qu'on pouvait imaginer aujourd'hui pour imaginer son épidémie et qu'il se trouve que ça tombe avec ce qu'on a vu. Donc, je ne sais pas quel est le sens de la question, au sens où on vit une épidémie respiratoire dont on a caractérisé les propriétés qui sont effectivement, voilà, et qui a provoqué 4,5 millions de morts. Que des gens aient réfléchi sur ce scénario, ça paraît vraisemblable et pourquoi pas. Et
puis c'était un scénario de l'OMS, hein, ça s'appelait la maladie X. Ça fait des années que l'OMS a modélisé l'idée qu'à un moment donné, il y aurait un virus émergent ou un pathogène émergent qui se répandrait à la surface de la planète. C'était quelque chose qui était prévu dans les menaces annoncées par l'OMS. Donc voilà, est-ce que ce soit tombé à côté juste ou pas, peu importe. Enfin, en tout cas, tout le monde s'attendait à ce que ce type d'événement puisse arriver.
Voilà, et c'est pas parce qu'on s'attendait à ce qu'on puisse arriver qu'on... Enfin, je veux dire, il y en a tout un tas d'autres dont on peut s'attendre qu'ils puissent arriver. Je peux vous en donner quelques-uns, ça signifie pas qu'ils arriveront.
Alors vraiment, une question super courte.
Non, regardez, là. Là,
vite. On a basculé dans Fort Boyard, vite. La clepsydre.
Bonjour. C'est pas... je trouve que dans ce qui a été dit, on entend quand même beaucoup sur des éléments sur le traitement de l'information. Et sur la parole des médias et la parole politique. Et on est quand même... Moi, j'entends que chaque personne va écouter ce qu'elle a envie d'entendre. Et j'ai entendu beaucoup de critiques sur les décisions politiques, mais les décisions politiques, dans une démocratie, c'est aussi emporter l'ensemble pour être sûr de rester dans une démocratie. Et si ça nécessite telle ou telle décision, ça peut être complexe si on veut pouvoir avoir l'adhésion et maintenir une adhésion démocratique. Donc je trouve que l'équilibre, il n'est pas facile. Et je trouve que dans ce que vous avez dit, ça peut parfois laisser penser que rien n'est jamais bien fait en décision. Non. Et laisser cette idée du complotisme monter avec l'idée qu'en fait, on savait beaucoup de choses. Et vous l'avez dit à un moment... À certains moments, scientifiquement, on ne savait pas et on pouvait le dire. Mais on n'avait pas envie, collectivement, moi j'en fais, voilà, je veux pas dire qui ou quoi, de l'entendre.
Je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. La première, c'est qu'effectivement, la gestion d'une épidémie comme ça relève d'un équilibre relativement compliqué entre différentes choses. Et que dans ces conditions-là, le fait que le politique prenne, ce que je disais, ses responsabilités et assume une ligne et se serve pour ça des informations qu'on peut lui fournir, sachant que ces informations, bien évidemment, qu'on ne savait pas tout au début, bien évidemment, que tout un tas de chercheurs ont pu croire au début que les masques servaient à rien, etc. Et il y a à prendre en compte cette information et cette connaissance qui se fait au fur et à mesure. Il y a deux autres problèmes. Il y a un, le fait qu'il y a eu un dysfonctionnement qu'on peut tous constater du pouvoir, enfin des médias, lié à l'idée que quand on ne sait pas, on va faire parler quelqu'un des deux camps en espérant que la vérité émerge de la confrontation. Et quand ce n'est pas la vérité, c'est au moins le spectacle. Sachant que dans bien des cas, on pouvait savoir, c'est ce que disait Nicolas, et que la vérité n'a jamais émergé en science d'une confrontation brutale entre des avis de ce point de vue. Il y a un autre aspect qui est que je ne suis pas aussi critique que mes voisins peut-être, mais ou que mon voisin de droite en tout cas, vis-à-vis du pouvoir. Je pense qu'un certain nombre de choses n'ont pas été faites comme elles auraient pu être idéalement faites. Je pense qu'il y a effectivement eu un péché majeur, et là je partage totalement son avis, c'est le mensonge au départ. Mentir n'est jamais un bon plan. Ensuite, bon, voilà, il y a eu des décisions, on peut être d'accord, on aurait pu penser qu'on pouvait faire les choses à la marge, mais l'un dans l'autre, et une fois de plus, nous avons un pouvoir qui a évité un certain nombre de choses. Il a révélé, ceci dit, des tentations, une tentation autoritaire. Il y a aujourd'hui dans toute l'administration la volonté du modèle chinois. C'est tellement plus simple quand on peut prendre une décision parce qu'on sait qu'on a raison et que tout le monde suit. Ça ne marche pas. On a senti cette tentation qui ne correspond pas du tout à ma couleur politique. On a senti d'autres choses. On reste dans un jeu qui est, malgré tout, on est une fois de plus ni au Brésil, ni en Chine, ni en Angleterre. On reste dans quelque chose qui est... on peut apporter des tas de critiques, mais on ne peut pas dire que ce gouvernement soit jeté à la poubelle. Enfin, on peut jeter à la poubelle dans les élections. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que le système a fonctionné.
Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Allez chez le coiffeur, c'est important, et portez des masques. Merci à tout le monde.
Futur littéraire.
littérature, cybernétique, avenir, prospective, science-fiction, liberté, utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales.